Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition d'Open Loge, champion du monde de hockey junior 2024. Thomas Lafond à l'animation de cet épisode du 26 décembre 2023, accompagné de Grégory Hamel ainsi que de Vincent Poirier. Comment ça va, les boys?
Ça va très bien, c'est toi?
Ça va très bien, merci. D'ailleurs, Vincent, première participation, ou c'est peut-être le premier podcast que tu fais.
Ben oui, très content d'être là, très content d'être là, surtout pour un bel événement qui est le championnat du monde junior. Fait que c'est le premier, mais pas le dernier.
Ben écoute, on t'en souhaite plusieurs. Écoutez, grosse journée pour débuter cette première journée de compétition au championnat du monde junior. Quatre matchs au programme, dont l'entrée en scène du Canada contre la Finlande. Si vous n'avez pas d'objection avec ça, on va commencer avec ce match-là. Victoire du Canada par la marque de 5 à 2. Vos impressions du match, ça commence par toi et Craig.
Écoute, j'ai quand même été surpris par la partie des Canadiens. Honnêtement, j'étais pas certain avec ce qu'on avait vu en match préliminaire et tout ça. Honnêtement, j'avais un peu peur, je redoutais un peu ce premier match-là. On se rappelle, l'année dernière, on avait joué notre première partie contre les Tchèques, puis on les avait à peu près à la légère. On avait une équipe qu'on trouvait un peu, qui était un peu supérieure sur papier à celle de cette année, selon moi. Puis on s'était quand même fait surprendre là, la première partie, je pense que c'était 5 à 2 contre les Tchèques. La troupe, on dirait, n'était pas prête, puis c'est pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Je pense qu'on a commencé fort, on a continué à. On n'a pas eu beaucoup de moments où est-ce qu'on dirait qu'on manquait d'énergie, où est-ce qu'il manquait de choses comme ça. C'est sûr que l'indiscipline, c'est quelque chose qu'on va devoir corriger. Mais en termes d'efforts, en termes de résultats aussi, le gardien finlandais a fait des beaux arrêts, surtout en première période. Mais je pense que par la suite, ça s'est comme un peu mis en marche. Puis je pense qu'on a été opportuniste. Puis, je pense que c'était le premier test qui était super important parce qu'après ça, je pense que la Finlande, c'était le gros club avec nous dans ce. Qu'on regarde, sur papier, c'est vraiment un mauvais club. Fait que, on a passé ce premier test-là. Puis après ça, là, c'est juste de ne pas prendre les autres équipes à la légère parce que, on veut avoir on veut terminer en tête du classement de notre division. Mais c'est très bien d'avoir. Être en mesure de gagner ce premier match-là.
Mm-hmm. Ben écoute, je pense que le prochain adversaire, le Canada, peut quand même se permettre de prendre un peu à la légère. Ça reste juste la Lettonie. Donc, écoute, et historiquement, ces matchs-là, c'est des walk in the park, un peu super bonne expression pour le Canada. Tu parlais de l'indiscipline, effectivement, le Canada qui a amassé 12 minutes de punition lors de la rencontre. Donc, c'est un aspect qu'il va peut-être falloir améliorer de ce côté-là, parce qu'il contre une équipe comme la Suède, qui risque d'être beaucoup plus solide que la Finlande. Personnellement, je suis pas très impressionné par la Finlande. C'est sûr qu'avec le power play qu'ils ont, ils vont être capables de capitaliser beaucoup plus que ce que la Finlande a fait. Une ligne qui m'a impressionné pour le Canada, c'est le trio de Nate Danielson, Owen Beck et Owen Allard. Danielson qui a d'ailleurs terminé la rencontre avec un but, une passe. Allard qui a marqué un but de son côté. Et Beck qui s'est distingué sur le désavantage numérique. Donc, vraiment un gros match de la part de ce trio-là. Vincent, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, c'est sûr que quand on regarde le match quelques heures après, on peut se dire que l'indiscipline dans ce genre de match-là contre une puissance peut faire mal au Canada. Comme tu as mentionné, la Suède, va falloir vraiment régler ça très rapidement, ce problème d'indiscipline-là, parce que 12 minutes de punition contre la Suède, ça peut faire très mal. parce que comme on l'a vu dans l'autre match qu'on va mentionner un peu plus tard, la Suède, eux, ont marqué 3 buts en avantage numérique aujourd'hui. Oui, on va dire que c'est contre la Lettonie, mais encore là, ça reste que leur power play fonctionne, leur avantage numérique fonctionne bien, puis il va falloir faire attention à ça. Moi, ce que j'ai aimé du côté du Canada, c'est la présence devant le filet. Oui, on a des gros bonhommes à l'attaque, à la défense, pardon, mais on a des bons joueurs devant le filet à l'attaque. Je pense au but de Celebrini qui vient s'immiscer entre plusieurs défenseurs de la Finlande pour réussir à pousser la rondelle dans le filet. On pense aussi au premier but de la rencontre qui est dévié par la culotte du joueur canadien. Donc, je pense que c'est un aspect qu'on doit continuer à mettre de l'avant du côté du Canada. La présence devant le filet, on apporte des tirs, puis on est capable de mettre à l'arrière du gardien de but ces tirs-là.
Ben écoute, je suis d'accord. Je pense que c'est un aspect que le Canada doit continuer de capitaliser, surtout quand t'as pas une vedette un peu comme Connor Bedard qui peut décider de prendre le match à lui seul sur les épaules. Oui, c'est un line-up un peu plus balancé, si on est comme ça, à l'attaque, mais quand je crois pas que t'as un manque de talent du côté du Canada, mais quand t'as pas ce genre de joueur-là qui peut décider de mettre fin au match dans un claquement de doigts, faut que tu continues à travailler plus fort que l'autre équipe. Je pense que ce que Canada a fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, elle parle de travailler fort. Soulignons la performance de Maverick Lamoureux qui a marqué et ainsi que récolter une passe sur le premier but du match. Donc, gros début de tournoi pour le gros défenseur également de 6 pieds 7, espoir des Coyotes. Vraiment un autre qui m'a impressionné. Et ben, je ne sais pas si vous comptiez en parler, mais devant le filet, Mathis Rousseau qui a connu un très bon match quand même. 24 arrêts sur 26 tirs. Et un excellent arrêt en première période où est-ce qu'il a volé complètement le joueur finlandais sur un 2 contre 0, 2 contre 1. Vraiment, grosse performance de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Ouais, c'est après un début de match qui était mitigé du côté du Canada, je pense que ça a vraiment permis de donner le momentum à la formation canadienne. Un gros arène comme celui-ci, avec quelques minutes à faire avant la fin de la première période. C'est sûr que cet arrêt-là a permis à l'effectif canadien de se remettre dans le match, de prendre conscience que si on a un gardien qui est capable de faire des gros arrêts, ben on doit le remercier en allant inscrire des buts. Puis je pense que c'est ce que le Canada a fait une minute seulement après l'arrêt de Rousseau, ben le Canada est allé inscrire le premier but du match. Fait que je pense que ça a été un déclic pour la formation canadienne, cet arrêt-là. Puis la performance en général, ben comme tu l'as dit, elle a été excellente.
Ouais, ben, je pense que c'est un moment tournant. La partie à ce moment-là, c'était 0-0. Que les Finlandais ouvrent la marque. Je pense que c'est en Suède, c'est proche de la maison quand même. Il y a beaucoup de Finlandais dans les estrades. Ça aurait pu changer tout le momentum, ça aurait pu changer toute l'ambiance dans l'aréna. Puis comme Vincent a mentionné, tout après, le Canada était en mesure d'ouvrir la marque. Puis ça l'a donné des ailes un peu à la formation. Même si les Finlandais ont été capables de couper l'avance des Canadiens en deuxième période, je pense que tu sais, à partir de l'arrêt puis du premier but du Canada, les joueurs ont vraiment été capables de tu sais, faire plus confiance en leur gardien, puis de même façon être en mesure de tu sais, se sentir plus libre d'aller en attaque, de produire, de créer des chances en attaque en sachant que leur gardien était en confiance puis tout ça. Puis pour revenir sur un point que tu as mentionné, tu sais, on n'a pas beaucoup on n'a pas de joueur de talent qui peut changer à lui seul tu sais, un peu un match comme on avait l'an passé avec les Connor Bedard ou avant ça, avant même ça avec Mason McTavish par exemple, tu sais, les joueurs de talent, les joueurs dans notre top 6 pour la continuité dans le tournoi, j'aimerais quand même ça qu'ils puissent produire un peu plus. T'sais, c'est le fun de pouvoir gagner en ayant des joueurs d'énergie, des joueurs de 4e trio, 3e trio. On a mentionné Nate Danielson Allard, etc., qui ont eu des grosses parties, qui ont marqué les buts importants. Célébrini a marqué le but gagnant finalement. Lui qui était sur le troisième trio, je pense que c'est un peu comme Bédard à sa première participation. Il va pouvoir monter les échelons au travers des parties. Mais on aimerait ça voir des gars plus importants dans le top 6 sur l'avantage numérique qui peuvent aussi un peu plus changer le cours du match. Je pense que le trio à Mathieu Poitras, à Mathieu Savoie avait eu une excellente première période. Par la suite, ça s'est un peu compliqué. Puis à partir de la deuxième période, c'est plus nos joueurs d'énergie qui ont vraiment amené le Canada. Puis nos joueurs d'énergie et le gardien qui ont amené le Canada vers la victoire. Tandis que Mathieu Savoie a écopé deux pénalités, une qui a coûté un but, etc. Donc je pense que à partir de la prochaine partie, là, c'est contre la Lettonie, c'est la meilleure équipe pour se mettre en marche, dans le fond. J'aimerais ça qu'ils puissent un peu plus avoir un impact dans les parties à partir de maintenant.
Parlant de Celebrini, je pense qu'il a montré assez pour monter en top 6, c'était le prochain match, où justement, ce serait un autre match contre la Lettonie, justement, pour faire le changement, laisser une autre chance.
J'ai de la misère à comprendre pourquoi il n'est pas déjà dans le top 6. Je pense que si ce n'était pas un gars de 17 ans, il serait déjà dans le top 6, justement. Dans les matchs préliminaires, c'est le meilleur pointeur. Là, aujourd'hui encore, il marque un gros but. Je pense que c'était pas sa meilleure partie c'est au complet. Mais tu sais, un joueur comme ça, tu lui donnes une chance puis il va marquer. Il l'a prouvé aujourd'hui encore. Je pense que j'aimerais ça le voir bientôt avec Jordan Dumais. Il a fait la pluie et le beau temps dans les parties préliminaires avec lui. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver inévitablement là, si dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien dans le top 6, on va les réunir ces deux gars-là. Puis je pense qu'il va, une fois qu'on va lui donner cette chance-là d'être dans le top 6, il va pas redescendre dans les deux derniers trios.
Mm-hmm. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur ce match-là?
Ben moi, peut-être te parler un petit peu de la Finlande. Le gardien, je l'ai trouvé excellent, Niklas Kokko, même si, début, comme on l'a mentionné, avec une présence forte devant le filet, j'ai trouvé qu'il a fait des gros arrêts, qui a permis à son équipe quand même de maintenir le cap puis de rester dans la rencontre. Fait que je pense que ça, c'est important de le souligner. Sinon, comme tu as mentionné, j'ai pas... La Finlande m'a pas fait tant peur que ça, puis je trouve que c'est peut-être pas de bon augure pour la continuité de leur tournoi. Il avait pas l'air si menaçant que ça, surtout contre une formation canadienne qui, on le sait, les Canada-Finlande dans le passé ont été souvent chauds, ont souvent été des gros défis pour le Canada, mais là, cette année, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus léger niveau talent du côté de la Finlande, mais ça reste que le premier match du tournoi.
On le voit souvent avec des équipes européennes comme ça. Je trouve, c'est surtout les Finlandais, on le voyait, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'habiletés offensives, mais qui, au travers du tournoi, ont de la misère à se trouver une chimie, à faire des jeux pas individuels. On le voyait aujourd'hui, c'était des montées individuelles qui menaient des fois à des chances de marquer, mais plus souvent que d'autres, à des revirements. On le voyait dans le passé, je pense juste à des gars comme Brad Lambert, avec la Finlande, qui, tu sais, il est super, il monte des super beaux flashs, mais tu sais, c'est un gars qui, au travers des tournois, avait des fois de la difficulté à rester même dans l'alignement parce qu'il ne pouvait pas produire à lui seul. Tu sais, pour la Finlande, c'est de trouver un système qui va mettre de l'avant le jeu d'équipe. Je pense que la Suède, tu sais, ils ont un premier trio d'enfer là, qui, justement, ont trouvé une chimie. Mais l'an passé, après ce premier trio-là, on voyait Fabien Nizel qui a tout le talent au monde, qui n'était pas capable de produire parce qu'il essayait encore de faire juste des jeux à lui seul, à faire des cuillères à tous les défenseurs. Finalement, ça n'amenait à rien. Fait que finalement, c'est ça. Je pense que la Finlande doit, tu sais, moins se fier au jeu individuel puis un peu plus se fier à le jeu d'équipe. C'est facile à dire, mais tu sais... Il y a 5 gars sur la patinoire, donc tu sais, utilisez-les.
Amplement d'accord. Écoutez, passons maintenant au prochain match pour les courageux d'entre nous qui sont levés à 6h ce matin pour écouter. Oui. Et une décision que je regrette quand même si c'était un bon match, pour écouter Slovaquie contre la Tchéquie en ouverture de tournoi. Victoire de 6-2 de la Slovaquie, un match. Une performance très convaincante des Slovaques. Très rapidement, les Tchèques qui ont fait le score rapidement dans la rencontre dès la première minute. Dominic Ryman qui a ouvert la marque sur des passes de André Becker et Mathias Medowski, le joueur du tracker de Vekamo. Mais après ça, ça a été, je ne dirais pas une domination, mais vraiment la Slovaquie a pris dessus. 5 buts consécutifs du côté de la Slovaquie, dont Philippe Meschard qui récolte 2 passes sur les buts de Servak et Petrovski. Vraiment, ce que j'ai remarqué, la Slovaquie, c'est une équipe qui, en ce qui compte à Tchéquie, fonce au filet. Et vraiment, c'est une équipe qui va, même s'il y a une certaine déficience de talent, notamment, ça va être intéressant de voir ça dans le match contre les États-Unis, mais qui va vraiment outworker l'autre équipe, qui va aller chercher les rondelles dans le coin, qui va foncer au filet, notamment, et ça a profité parce que le gardien tchèque Michael Rabal, qui a quand même été occupé 28 arrêts sur 34 tirs, mais on voyait mauvais contrôle de rondelle sur 2-3 buts, a échappé à la rondelle qui a mené à un retour face à une rondelle libre dans une cage abandonnée. Donc vraiment, du côté de la Slovaquie, le match a été exécuté à la perfection. Puis du côté de la Tchéquie, ça commence le tournoi vraiment pas du bon pied, puisque c'est un peu le match qui a décidé, veut pas, la deuxième place. Et c'est ça, du côté de la Tchéquie, outre le début de match, c'était pas très convaincant. Vos impressions du match, les boys, ça commence à faire toi, Vincent?
Ben, comme tu l'as mentionné, moi aussi j'ai un peu été déçu de la part de la performance du gardien de la Tchéquie. Surtout, moi, le but qui me vient en tête directement, c'est le deuxième but, le deuxième but de la Slovaquie. Un tir du haut des cercles qui passe à travers la mitaine du gardien pour se diriger tout doucement en arrière du but. Je pensais qu'on allait avoir une Tchéquie qui allait ressembler à l'équipe qui était, on va se le dire, surprenante l'année dernière, qui a fait peur et mal à plusieurs équipes, dont le Canada. Ben, j'ai comme l'impression que cette année, ça va être un peu plus la Slovaquie qui va être cette équipe-là, parce que ils m'ont agréablement surpris. Tu sais, on a des joueurs qu'on connaît bien, comme Philippe Meschard, Dalibor Dvorsky, que lui, par contre, j'ai trouvé un peu plus discret avec une fiche de -2 aujourd'hui. Mais il y a un bon fondement dans cette équipe-là, que ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble, puis ils se connaissent bien. Puis j'ai l'impression qu'ils pourraient peut-être causer la surprise cette année, les Slovaques.
Ouais, ben tu sais, du côté des Slovaques, je trouvais, tu sais, c'est une équipe qu'on mentionnait, que j'entendais souvent qu'on mentionnait comme étant l'équipe sous-estimée, l'équipe, la carte cachée, etc. Puis je trouvais qu'on le mentionnait tellement souvent qu'il devenait un peu surestimé. On pensait qu'il allait tellement être, tellement surprendre que, tu sais, il devenait plus tant une surprise que ça. Finalement, aujourd'hui, ils ont quand même trouvé une façon de nous surprendre en complètement démolissant la Tchéquie. Tu sais, je pense que c'était une première période qui était plus, où est-ce que les gars trouvaient un peu leur repère, mais après ça, ils ont explosé. Puis Philippe Meschard, c'était une agréable surprise. Honnêtement, moi, je trouve que, tu sais, du côté du Canada, on l'oublie trop facilement. Dans les espoirs, je trouve que, côté vision du jeu, c'est probablement lui, qui a la meilleure vision du jeu, la meilleure habilité de passer la rondelle. Je pense aussi à des gars comme Sean Farrell et tout ça. Mais tu sais, honnêtement, Philippe Meschard, c'est un passeur hors pair. C'est quelque chose que je vais, définitivement, si les parties sont plus à 6 heures du matin pour la Slovaquie, c'est quelque chose que je vais regarder avec attention. C'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. Aussi, tu sais, le duel Rabal contre Gaillan, tu sais, les deux gardiens, les deux premiers gardiens repêchés lors de l'encamp de 2023. Donc, c'est quelque chose que j'avais hâte de voir aussi. Malheureusement, tu sais, c'était pas vraiment une compétition parce que Gaillan a connu une très bonne partie. Puis, du côté de Rabal, vraiment, on ne pouvait pas s'attendre à ce que la Tchéquie aille très loin s'il joue une autre partie ou d'autres parties. Comme ça, je pense que, tu sais, quasiment tous les buts, il aurait aimé ça les revoir. Il y a beaucoup de buts qui, je pense, qui ont ralenti ou qui ont découragé un peu sa troupe. C'est un des joueurs qui va être une pièce maîtresse pour cette équipe-là. Puis je pense que ni lui, ni Juri Kulić, qu'on pensait, que beaucoup mentionnaient comme étant peut-être le meilleur joueur du tournoi, le meilleur attaquant du tournoi, toute équipe confondue, ces deux joueurs-là ne peuvent pas se contenter d'être bons si la Tchéquie veut finir le tournoi avec une médaille autour du cou. Puis aujourd'hui, c'était vraiment pas le cas. Je pense que Kulić a été OK. Puis Araba n'a juste vraiment pas fait les arrêts nécessaires. Donc, du côté de quand même, Gaïan a fait un très bon travail. Je pense que ça augure bien pour le restant du tournoi pour la Slovaquie. La Tchéquie, c'est comme on appelle un wake-up call pour eux là, pour le restant du tournoi.
Mm-hmm. Ouais, puis c'est important que tu parles aussi du travail de Gaïan parce que il a presque été exempt de tout reproche. Tu sais, je pense notamment au deuxième but de la Tchéquie où il peut quasiment rien faire. Il s'étire de tout son long pour bloquer la rondelle, puis un retour malchanceux qui vient trouver une cage laissée béante, mais ça vient d'une arrêt exceptionnelle à la base. Fait que je pense que, comme tu l'as bien mentionné, il a certainement remporté le duel à distance d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Tu parlais de Méchard, effectivement. Je pense que l'attaque slovaque va passer par lui. Écoute, je maintiens que Kulić aurait été un meilleur choix pour le Canadien, mais vraiment cette saison, depuis son retour dans la OHL avec les Rangers, il s'est vraiment amélioré. Il a commencé à dominer un peu. Le junior, c'est ce que le Canadien voulait qu'il fasse. Donc, je pense que vraiment, cette saison, s'il peut obtenir un edge un peu avec le championnat du monde junior, avec sa saison dans la OHL, ça peut n'être que positif dans son développement. Du côté des Tchèques, gros coup dur, Adam Jiříček qui a quitté la rencontre en fin de deuxième à cause d'une blessure à la jambe. Un joueur tchèque qui lui est tombé sur la jambe. Ça n'a pas l'air trop grave, pas comme la blessure de son frère de 2 ans qui, on rappelle, s'était blessé, je pense, en ouverture de tournoi et avait raté le reste de sa saison. Mais vraiment, ça semble pour être une absence de 2 ou 3 matchs, ça va faire mal à la Tchéquie.
Oui, puis pour la Slovaquie, je pense que pour revenir très rapidement à eux, un autre joueur qui s'est démarqué, on a parlé de Meshar, un choix des duels de Minnesota, Servaz-Petrovski, comme tu as mentionné, qui s'est démarqué lui aussi, qui je pense qu'il était probablement dans le top 2 des joueurs qui s'est le plus démarqué avec Meshar et le gardien. Puis rapidement, je pense que il a été repêché en 2022 dans l'année de Slavkovski et de Meshar, justement. Je pense que les fans du Canadien s'attendaient quasiment à ce qu'on le repêche, tellement que c'était le premier repêchage de Kent Hughes, puis on dirait qu'il voulait juste repêcher les Slovaques quasiment. Fait que, rendu en 6e ronde, finalement, le Wild a pu mettre la main sur lui. Puis jusqu'à maintenant, il y a quand même des très bonnes statistiques. Il y a des bons flashs pour un gars qui est sorti en 6e ronde.
Mm-hmm. Vraiment d'accord. J'ai bien aimé sa performance. Aviez-vous d'autres choses à rajouter sur ce match-là?
Ça va pour moi.
Ça va pour moi aussi.
Parfait. Passons au troisième match de la journée. Les États-Unis qui affrontaient la Norvège. Les États-Unis qui ont eu plus de difficultés que prévu. Victoire seulement de 4 à 1 contre la Norvège. C'était 0-0 après la première période. Et vraiment, je pense que les États-Unis n'ont pas été capables de partir avec le match comme qu'on s'en attendait. Le gardien norvégien qui a joué une excellente partie, 40 arrêts. De son côté, c'est moi, je retrouver son nom. Ce sera pas bien, non?
Stenrud.
Oui, Marcus Stenrud. Oui, alors, du côté des Américains, on s'attendait d'eux que c'est la meilleure équipe du tournoi. Est-ce que c'est de mauvais augure ou c'est juste que ça prend un peu de temps de partir de la machine?
Je vais te laisser y aller, Greg, en premier.
Ben écoute, c'est difficile à dire, honnêtement. Je pense que c'est beaucoup de moteurs offensifs qui sont réunis ensemble. c'est aussi quand même beaucoup de joueurs qui ont joué ensemble, donc ça me surprend qu'il n'y avait pas plus de chimie. Quand il finit avec 44 lancés, le très populaire Sten Rud, dont je n'avais jamais entendu le nom aujourd'hui, s'est fait un nom avec la Norvège en ce moment. On espère pour lui, il y a des gardiens comme ça qui se font des noms pendant le Mondial Junior. Des pays comme ça, on se pense en Slovaquie en 2015, c'est Godla, Denis Godla ou des trucs comme ça. T'sais, c'est des joueurs comme ça qui rentrent un peu dans la légende. Là, c'est très vite. Là. Encore, c'est juste une très bonne partie de Sten Rud, mais c'est un bon candidat pour l'étoile du tournoi, l'étoile non attendue du tournoi. Mais pour les États-Unis, c'est beaucoup de joueurs qui doivent juste se réveiller. Je pense que c'était. S'ils ne voulaient pas se présenter, c'était la partie pour le faire. Ils ont quand même été en mesure de l'emporter contre la Norvège. C'est sûr que c'était une frousse, mais écoute, je pense que c'est des joueurs tellement talentueux qui vont nécessairement trouver une façon de se mettre en marche. Il faut quand même mentionner Gavin Bradley. Je pense que selon pas mal tout le monde, c'était le meilleur joueur aujourd'hui du côté des Américains. Puis Trey Augustin fait aussi un bon boulot relativement dans son filet en bloquant 22 des 23 lancés dirigés vers lui. Mais sinon, c'est ça. Je pense que si c'était une partie qu'on pensait qu'elle allait se finir peut-être... qu'on ne pensait pas vraiment que ça allait être une partie serrée. Finalement, ça a été quand même un bon show que la Norvège nous a offert. Mais je pense que c'est les États-Unis qui vont se réveiller puis la Norvège qui va juste tenter de brouiller les cartes à nouveau là, pour le restant du tournoi.
Ouais, je serais d'accord. Je pense on parlait du fait que les États-Unis avaient un groupe un peu plus facile. Je pense que ça peut malheureusement pour le pays être le seul élément qui pourrait leur causer un peu plus de problèmes. Le fait qu'ils prennent un petit peu trop le groupe à la légère, parce que tu sais, on se rappelle qu'ils affrontent la Norvège, l'Allemagne, la Suisse. Puis de noms comme ça, je crois que c'est
la Tchéquie-Slovaquie.
Exactement, Tchéquie-Slovaquie. Puis avec la performance qu'on a vue aujourd'hui, je pense que les États-Unis pourraient se penser un peu plus gros qu'ils le sont réellement. Je pense qu'un élément qui serait important de corriger du côté des États-Unis, c'est comme un peu le Canada, l'indiscipline, on l'a remarqué, 10 minutes de pénalité aujourd'hui. Cependant, c'est ça, 10 minutes de pénalité aujourd'hui avec un but accordé en avantage numérique, un but en désavantage numérique pour la Norvège. Il va peut-être avoir quelques petits ajustements à régler de ce côté-ci, mais les puissances offensives des États-Unis vont devoir s'activer un petit peu plus. Je pense notamment à Will Smith, fiche de moins 1, à Ryan Leonard, fiche de moins 1, Gabe Perreault, qui ont été un petit peu absents dans la partie aujourd'hui, bien que les États-Unis ont quand même remporté la partie 4-1. Faut pas l'oublier. Deux buts pour Brindley, un but pour Sunogorod, puis un but pour Isaac Howard. Je trouve que c'est peut-être que les États-Unis, finalement, c'est un diesel qui va prendre en puissance au fur et à mesure du tournoi, mais il va falloir surveiller peut-être un faux favori dans le tournoi.
Qui dit match des États-Unis? Nation, évidemment, le sport canadien qui a récolté une passe sur le but de Isaac Howard en troisième période. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance?
Écoute, je pense qu'on peut s'attendre à plus de lui. C'est Nation, nécessairement, il va montrer les flashs, mais je pense que dans l'ensemble, il peut connaître un bien meilleur tournoi, puis il le sait, puis son entraîneur le sait, puis je pense que un mauvais match, elle arrive à tout le monde, puis comme j'ai mentionné pour les autres joueurs, c'était le moment d'avoir un moins bon match, puis là, pour le restant du tournoi, je pense qu'il a quand même récolté une passe. On s'attendait peut-être à un peu plus de ça contre cette équipe-là, mais je pense que c'est un joueur qui va produire, qui connaît un mauvais match ou un bon match. Là, c'est juste de jouer une partie plus complète, sans nécessairement être un gars qui va complètement... C'est un défenseur shutdown, comme on dit, là, qui reste à la maison, comme on dit en anglais. Donc, c'est un défenseur très offensif, mais On peut s'attendre un peu plus de lui quand même offensivement.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. On connaît les Notsun, on sait ce qu'il vaut. On le sait, passeur élite. On le sait, c'est un meneur de jeu incroyable. On le sait qu'il va faire la pluie et le beau temps du côté des Canadiens dans le futur. Là, il faut voir à quel point il est capable de se développer défensivement, parce que comme on l'a mentionné, c'est son plus gros défaut. Son IQ défensif est à améliorer, ça c'est certain. Mais on l'a vu, ça passe en hauteur, ça s'assure directement en avantage numérique pour Leonard, qui réussit à la rediriger à son coéquipier devant le filet. Je pense que c'est ce qu'on attend de Lane Hudson à chaque match, puis aujourd'hui encore, il nous l'a montré.
Mm-hmm. Écoutez, ça, rien d'autre à ajouter sur ce match-là. On va passer au dernier match, parce que je veux pas le temps file. Les autres qui entraient en scène, premier match pour la Suède contre la Lettonie, victoire assez convaincante de 6-0. T'en parlais plutôt, Vincent, 3 buts en avantage numérique du côté des Suédois. Mais écoute, ça reste quand même la Lettonie. Vos impressions du match, à toi et Craig?
Écoute, j'avais hâte de voir la foule suédoise, comment les Suédois allaient réagir. C'est sûr, comme tu as mentionné, c'était pas l'opposition tout étoile, une opposition toute étoile, mais je pense que ça va être un très gros tournoi pour les Suédois. C'est à la maison, on le sait dans le passé, ils ont été super bons en match préliminaire. Je pense que c'était comme 53 victoires de consécutives en tournoi préliminaire. Puis une fois qu'ils se rendaient dans les matchs de médailles, les matchs qui comptaient, les matchs importants, ils croulaient sous la pression. Puis là, ça va être intéressant de voir devant leurs partisans, chez eux, est-ce que cette pression-là va revenir les hanter. Je pense que la pression n'est pas trop venue les hanter aujourd'hui, parce que c'était une opposition qui était, ma foi, pas très à la hauteur, mais pour les prochains matchs, ça va être intéressant de voir ça. Aujourd'hui, on pouvait s'attendre à une partie à sens unique, c'est ce qui est arrivé. Puis je pense que ils ont énormément de joueurs talentueux, puis aujourd'hui, c'était le match pour prouver leur habileté. Bon match de Bisted, de Lekkeri Mäki, aussi mentionné Elias Salamonsson, qui a trouvé une façon d'avoir 25 minutes de pénalité en 25 secondes, quand même. C'est tout un exploit. c'est ça. Pour le reste, peut-être s'éloigner, essayer de ne pas avoir une moyenne de 1 minute de pénalité par seconde. Puis ça va bien aller pour le reste du tournoi.
D'ailleurs, tu as mentionné deux buts de Bystedt, deux buts également de Lekkeri Mäki. L'attaque suédoise qui semble fonctionner à plein régime. Pensez-vous que ça va être suffisant pour terminer au premier rang du groupe, devant le Canada, entre autres?
Tout a joué au match contre le Canada, ça c'est sûr. L'avantage de la glace peut leur faire le plus grand bien. On l'a vu aujourd'hui avec la marée jaune qui était à l'aréna. Mm-hmm. Le support était présent. Puis je pense que ça peut être un gros avantage du côté suédois. Qui on le sait, sont à la maison, ils vont pouvoir profiter de cet avantage-là de la glace pour pouvoir faire mal au Canada, qui eux vont sentir à l'étranger. C'est le cas de le dire. Puis, je pense que oui, ils ont les ressources nécessaires pour déroger la première place au Canada. C'est sûr que c'est un effectif bourré de talent, comme on l'a dit, Lekkeri Mäki, Wagner, Bystead, Sandin Pelinka. L'équipe est, en bon français, l'équipe est pactée. Puis, je pense qu'on va continuer de voir cette armada offensif-là, destructeur de la Suède tout au long du tournoi. Je pense qu'on est loin de voir une élimination du côté de la formation à domicile.
Normalement, moi, je suis pas trop inquiet du côté offensif. Tout le talent est là du côté offensif, même à la ligne bleue, c'est quasiment, on compte beaucoup de défenseurs offensifs. On parle d'Axel Sandin Pelikka, je pense qu'il y a, 20, il y a 9 buts en 24 matchs dans la Ligue d'élite de Suède. C'est quasiment aucun précédent à ça pour un joueur de 18 ans. Je pense que c'était ça, plus défensivement, là, c'est sûr que c'était pas une compétition, comme j'ai mentionné, qui était à la hauteur. On a alloué 20 lancers quand même contre la Lettonie. Mais je veux dire, c'est ça va être de refermer la défensive. Côté de gardien, Hugo Avelid, je pense bien. Ouais, Hugo Avelid, je suis pas certain encore de comment il va réagir. Je sais pas si c'est vraiment un gardien qui est de calibre d'être un partant dans ce championnat-là, surtout pour une puissance comme la Suède, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir suivre. C'est quand même, je pense, c'est juste un gardien de 5 pieds 10, ouais. Puis qu'il n'y a pas des stats superbes cette année dans la Ligue de Suède. Ça, je pense que ça va être, la question n'est pas offensivement, je pense que ça va être une équipe qui va être capable de trouver le fond du filet. La question, ça va être est-ce qu'ils sont capables de la garder à l'extérieur de leur propre filet.
Ouais, c'est très vrai. Puis, seul petit bémol au match, je crois, c'est que la Suède en a mis que 6. Maintenant, il va falloir voir comment contre des formations un petit peu plus féroces que la Lettonie, l'équipe va réagir. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir voir ça dans les matchs à venir. Il est trop tôt pour faire une analyse complète de la formation suédoise. Parce que oui, on a quelques échantillons, quelques bons joueurs qu'on peut s'attendre qu'ils vont avoir un bon tournoi. Mais avec un premier match contre la Lettonie, l'échantillon est trop, trop maigre.
Ben écoutez, la Suède, c'est une équipe qui a tendance à être bonne dans la phase de groupe. 54 victoires consécutives, je me trompe pas, l'an dernier ou le 200. Par contre, seulement 2 médailles d'or. Donc, écoute, là, où est-ce que ça joue si c'est dans la ronde des médailles? Et pour l'instant, la Suède n'a pas vraiment été opportuniste de ce côté-là. Ben écoutez, c'est parfait. Demain, autre grosse journée au championnat du monde junior, 4 matchs au programme. Décideur, la Slovaquie va jouer contre la Suisse. Donc, malheureusement, Craig, je pense que ça va être un autre match que tu vas rater.
ça se peut sinon, bien.
Quoi?
Ça se peut bien.
Sinon, à 8h30, la Finlande affronte l'Allemagne qui débute, elle, son tournoi. Ensuite, la Norvège affronte la Tchéquie à 11h. Et le Canada est de retour en action, comme on a dit plutôt, contre la Lettonie à 13h30. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour être ici.
Merci à toi.
Merci à toi, Tom.
Ben, écoute, ça fait plaisir à la maison. Merci de nous avoir écoutés. Et on se reparle demain pour un autre épisode d'Open Loge, édition du championnat mondial junior 2024.
À demain.